Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Stéphanie Collo. Good evening business.
18h sur BFM Business, soyez les bienvenus, c'est les experts du soir, comme tous les vendredis, on est en direct jusqu'à 19h. Dans l'actualité, ce soir, c'est fait, le Mercosur et l'Union Européenne ont finalisé l'accord de libre-échange après 25 années de négociations commerciales. Ursula von der Leyen l'a annoncé à la mi-journée, malgré l'opposition répétée de Paris, les agriculteurs européens s'insurgent. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, il faut maintenant ratifier le texte et ce n'est pas gagné. Explication d'Hélène Cornet dans un instant. En France, Emmanuel Macron consulte en vue de former un gouvernement d'intérêt général. Le chef de l'État va s'entretenir au téléphone avec les responsables de LFI, des écologistes et du Parti communiste. Il reçoit aussi ce soir Laurent Wauquiez. À la mi-journée, c'est le premier secrétaire du Parti socialiste qui a été reçu à l'Élysée. Vous l'entendrez dans un instant. Et puis J-1 avant la réouverture de Notre-Dame. Après 5 années de travaux, la cathédrale s'apprête à accueillir demain une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement, dont Donald Trump, à l'occasion d'une cérémonie d'ouverture, un événement qui intervient alors que la France traverse un moment de blues politique et économique. Et alors, est-ce que cela peut devenir un levier d'attractivité, de soft power? On va en parler avec nos experts sans frontières. Mais d'abord, c'est le journal.
Good evening business, le journal.
Et c'est donc fait, le Mercosur et l'Union européenne ont finalisé un accord de libre-échange après 25 années de négociations commerciales. Ursula von der Leyen l'a annoncé à la mi-journée depuis Montevideo en Uruguay. La présidente de la Commission européenne salue un texte gagnant-gagnant.
Cet accord est un accord gagnant-gagnant. L'Europe est déjà le deuxième partenaire en termes de commerce et d'investissement du Mercosur. Vous savez la façon dont nous arrivons à faire du commerce ensemble. Nous croyons en un échange juste et un mutuel respect. Cet accord apportera de vrais avantages pour les consommateurs et les entreprises des deux côtés.
L'accord conclu reste inacceptable en l'état. Ce n'est pas la fin de l'histoire, dit l'Élysée ce soir. Hélène Cornet, effectivement, même si ce traité, cet accord est finalisé, il faut ensuite le ratifier et ça, c'est pas gagné.
Effectivement, la procédure est encore longue. Il faut d'abord traduire le texte en 23 langues. Il doit passer ensuite devant le Conseil européen, le Parlement européen pour être adopté. Mais avant tout ça, il faut décider de sa forme juridique qui va déterminer la procédure de ratification, c'est-à-dire en une ou deux parties, à l'unanimité avec droit de veto ou à la majorité simple. Selon les experts de la Commission européenne, il faut absolument dépolitiser les débats. L'accord est gagnant, disent-ils, pour l'Union européenne. Une opportunité pour beaucoup de secteurs industriels, la chimie, la pharmacie, l'optique, l'automobile et même l'agriculture. Ils prennent pour exemple le CETA, vous savez, l'accord de libre-échange avec le Canada, qui est comparable et qui, depuis 6 ans, finalement, a des résultats très positifs pour l'agriculture française. L'accord, disent-ils, apporte toutes les garanties nécessaires. Il impose aux pays du Mercosur des engagements en termes de déforestation. Et puis surtout, il met des quotas, vous savez, pour la viande, par exemple, 99 000 tonnes maximum importées par an. Il met également une clause de sauvegarde en cas de soudaine augmentation des volumes et même un outil de compensation financière si ça n'était pas suffisant. Alors la France, il est vrai, reste sur sa position pour le moment. L'accord signé aujourd'hui par la Commission n'engage qu'elle, rappelle la ministre déléguée au commerce extérieur. Et puis du côté des agriculteurs, eh bien ils envisagent eux aussi de durcir leur action dès la semaine prochaine.
Merci Hélène Cornet. Emmanuel Macron consulte en vue de former un gouvernement d'intérêt général. Le chef de l'État va s'entretenir au téléphone avec les responsables de LFI, du Parti communiste et des écologistes. Ce soir, il reçoit Laurent Wauquiez. À la mi-journée, c'est le premier secrétaire du PS qui s'est rendu à l'Élysée. Olivier Faure assure que les socialistes ne participeront en aucun cas à un gouvernement dirigé par un Premier ministre de droite. Écoutez.
Nous avons demandé s'il y avait des préalables. Et contrairement à ce que je crois fait fuiter l'Élysée, le président n'a posé aucun préalable sur aucun sujet, considérant que ça ne relevait pas de sa compétence, mais que ça devait être l'objet d'une discussion et d'un éventuel Premier ministre. Nous avons rappelé que nous souhaitions, pour garantir le changement et faire en sorte que le cap puisse être modifié, que ça devait être un Premier ministre de gauche et que nous ne participerions dans aucun cas à un gouvernement qui serait dirigé par un Premier ministre de droite.
Et malgré les blocages politiques, toujours pas de tension sur la dette française. Et d'ici là, sur le marché immobilier, les taux d'intérêt continuent même de baisser. On est désormais à 3,37%, toute durée confondue, soit quasiment un point de moins qu'il y a un an. De quoi relancer le volume de prêts accordés. Marie Cœur de Roy.
Les observateurs du crédit immobilier sont unanimes. La baisse des taux d'intérêt s'accompagne d'une nette reprise du marché. Crédit Logement CSA note ainsi que le nombre de prêts accordés ces trois derniers mois est en hausse de près de 54% comparé à la même période de l'an dernier. Même constat du côté de la Banque de France qui nous dit aujourd'hui qu'on est repassé en octobre au-delà des 10 milliards d'euros de nouveaux crédits hors renégociation du jamais vu depuis le printemps 2023, à l'exception du sursaut ponctuel de juillet dernier qui traduisait en fait le retour des acheteurs après le coup de frein lié à l'annonce des législatives anticipées. L'incertitude politique et son impact psychologique sur les projets immobiliers, c'est d'ailleurs précisément ce qui pourrait de nouveau influencer le marché. Car pour l'instant, côté taux, la baisse se poursuit. Sur 20 ans, on est descendu à 3,3% en moyenne. Et en ce mois de décembre, les meilleurs profils d'emprunteurs peuvent déjà décrocher des taux autour de 3%, voire en dessous.
Ubisoft, plus forte hausse du SBF. Ce soir, le titre gagne 13% à la clôture. Des informations de presse évoquent un rachat du studio français de jeux vidéo par Tencent. Les fondateurs, la famille Guillemot, a discuté avec le géant chinois ces dernières semaines pour financer l'opération. Opération séduction pour Elon Musk. Hier, devant les élus du Congrès, il présentait les premières orientations de sa commission pour l'efficacité gouvernementale qui envisage de sérieuses coupes budgétaires dans l'administration fédérale. Le sujet de Suzy Muselet.
Pendant la campagne déjà, Elon Musk assurait pouvoir réduire les dépenses fédérales de 2000 milliards de dollars, quitte à marcher sur les plates-bandes des parlementaires. Dans son viseur, la bureaucratie enquistée, selon lui, dont il prévoit de réduire drastiquement les effectifs. Il a reçu hier le soutien du président de la Chambre des représentants, Mike Johnson.
Le gouvernement est trop grand, il fait trop de choses et il ne fait presque rien de bien. Les contribuables méritent mieux, ils méritent un gouvernement plus réactif, plus efficace, plus resserré et plus concentré sur ses objectifs principaux.
Le milliardaire américain suggère notamment de revenir sur le principe du télétravail pour entraîner une vague de départs volontaires dans la fonction publique ou de délocaliser les agences fédérales. Pas question pour l'instant de toucher aux programmes d'aide comme la sécurité sociale ou l'assurance santé des plus pauvres et des seniors, ni de toucher au budget de la défense auquel les élus sont très attachés. Les premières cibles des coupes budgétaires pourraient donc être les subventions à l'audiovisuel public ou à des organisations jugées progressistes comme le planning familial.
Toujours aux États-Unis, TikTok est sous pression après le rejet de son recours par la Cour d'appel fédérale de Washington, ce qui oblige donc la maison mère chinoise ByteDance de vendre TikTok sous peine d'interdiction aux États-Unis, le Congrès ayant fixé au 19 janvier l'application du texte. Ce coup de théâtre en Roumanie, la Cour constitutionnelle annule le premier tour de la présidentielle et demande un nouveau scrutin. Des documents issus du renseignement révèlent une opération d'envergure sur TikTok en faveur du candidat pro-russe, arrivé en tête du premier tour à la surprise générale. Donald Trump et une cinquantaine d'invités de marque vont participer demain à la cérémonie de réouverture de Notre-Dame après 5 années de travaux, un chantier qui a donné un nouvel élan sur les métiers d'art du patrimoine qui rencontre de plus en plus d'intérêt selon le dernier baromètre ISM MAF. Alexis Vallée.
2 fois plus d'apprentis maçons du bâtiment ancien en 5 ans, une hausse de 160% de bac pro dans le secteur du facteur d'orgue. Plusieurs filières des métiers d'art et de création augmentent leurs effectifs, comme le décrypte Catherine Elie, directrice des études de l'Institut supérieur des métiers.
Globalement, ce sont des métiers de plus en plus valorisés. Deuxième facteur, ce sont globalement des métiers qui sont de plus en plus recherchés, car ils répondent à la recherche de sens. Il y a eu également une réforme de l'apprentissage qui a permis de booster, d'accueillir plus de jeunes en formation.
Le nombre d'entreprises artisanales au plus haut également depuis 3 ans, avec en moyenne 18 000 créations chaque année. La France en recense 120 000, avec une grande majorité de micro-entrepreneurs.
Beaucoup ils sont issus d'une reconversion. L'avantage de la micro-entreprise, c'est qu'elle limite les risques financiers. Elle permet de tester une activité, de voir si derrière il y aura un marché, s'il y aura une clientèle. Ça permet également de démarrer l'activité en parallèle d'une activité salariée, par exemple.
Parmi les métiers les plus attractifs, les photographes, les bijoutiers fantaisie et les ébénistes. A contrario, les graveurs, les tisserands et les tuiliers se raréfient.
Et puisqu'on parle de Notre-Dame, notez cette émission spéciale La France a tout pour réussir, présentée par Jérôme Tichit, tournée depuis la cathédrale avec une vue époustouflante, diffusion ce lundi à 21h30 sur BFM Business. Pour l'heure, on va faire un tour sur les marchés. Les marchés avec Aude Kersulek. Bonsoir,
bonsoir
Aude. Le CAC termine la semaine en bonne forme.
Ouais, les marchés ont signé vraiment une très belle fin de semaine. Déjà, il faut savoir que ça faisait 6 semaines qu'on enchaînait des baisses hebdomadaires et là, enfin, on sort de ce marasme. C'est quand même marrant que ce soit cette semaine-là. On pensait être en pleine crise politique. C'est pas du tout une crise boursière ou financière. On finit avec une hausse de 1,3% ce soir sur le CAC 40 à 7426 points. Largement porté par les valeurs du luxe. Kering frôle les 6% de hausse en clôture, LVMH et Hermès aussi en hausse. Alors optimisme vis-à-vis d'une relance chinoise, c'est ça qui a porté les valeurs du luxe. On a eu beaucoup aussi de rachats de positions vendeuses, donc très peu de baisses sur le marché parisien. Sur le SBF 120, vous en avez parlé, Ubisoft, la plus forte hausse, plus 13%, Atos, moins 98%. C'est l'écroulement de cette valeur dont on parle évidemment depuis très longtemps, ultra spéculative. Et puis sur le marché obligataire, on finit aussi bien la semaine puisque pas de crise financière, pas d'emballement du spread après la censure. On est repassé à 75 points de base, donc un plus bas de 2 semaines. Le taux d'emprunt 10 ans en dessous des 2,9%, donc ça s'est très bien passé. L'euro-dollar aussi se stabilise autour de 1,05$. Donc très belle semaine sur les marchés.
Tout va bien, merci Aude Kersulek. Pendant ce temps, du côté de Wall Street, on a un Dow Jones qui s'est retourné dans le rouge, moins 0,02%. Du côté du Nasdaq, on est bien orienté dans le vert, plus 0,58%. Notez d'ailleurs que le fonds souverain de la Norvège, le plus gros au monde, a franchi le cap symbolique. Sa valeur a dépassé pour la première fois les 20 000 milliards de couronnes, soit 1 700 milliards d'euros. Voilà pour la petite info marché du soir. Tout de suite, on retrouve les experts sans frontières. On va parler du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, des incertitudes politiques en Europe et évidemment de la réouverture de Notre-Dame demain, outil de soft power de la France. À tout de suite.
BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Stéphanie Collo. Good evening business. Les experts sans frontières.
Experts sans frontières, exactement. Les experts sans frontières nous ont rejoints sur le plateau pour porter un regard sur l'actualité française ou européenne vue de l'étranger, pour parler aussi de l'actualité internationale, évidemment. Bonjour Daniele Zappala.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant d'Avenir à Paris et docteur en géopolitique. Bonjour Adina Revol.
Bonjour.
Vous êtes auteur de Rompre avec la Russie, le réveil énergétique européen, professeur à Sciences Po et ancienne porte-parole de la Commission européenne en France. Bonsoir Pascal Johannin.
Bonsoir.
Vous êtes politologue à la Fondation Robert Schuman et Benaouda Abdedaïm, éditorialiste international de BFM Business, auteur de la newsletter L'envers du globe. Le QR code s'affiche sur votre écran. Abonnez-vous, c'est gratuit et c'est surtout très intelligent. Allez, on commence avec le Mercosur. Évidemment, c'est le dossier du jour. Ursula von der Leyen a signé à la mi-journée, au nom des 27, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, qui comprend l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay, rejoint par le Panama dans l'après-midi. Le traité vise a supprimé la majorité des droits de douane afin de créer un vaste marché de 700 millions de consommateurs. Pour autant, ce n'est pas la fin de l'histoire, on nous dit, parce qu'il faut encore le ratifier. Adina Revol, quelles sont les prochaines étapes ?
Oui, elle n'a pas signé en fait l'accord. Il y a eu un accord politique qui a été trouvé à Montevideo à la mi-journée. Ensuite, les prochaines étapes, donc c'est une traduction juridique, divulgation du texte prochainement, très prochainement, une publication du texte. Ensuite, une traduction dans toutes les langues de l'Union européenne. Et ensuite, une proposition formelle de la Commission européenne soumise aux États membres au Parlement européen.
Alors, dans le camp de ceux qui poussaient à ratifier cet accord, il y a le Brésil, l'Allemagne, l'Espagne. Il pressait de signer avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier, et évidemment avant ces augmentations de droits de douane. Il y avait urgence, Pascal Johannin ?
Alors, il y a eu une urgence parce que ce traité de commerce...
ça faisait 25 ans qu'on le négociait.
Il est sur la table depuis la fin de la commission de Jean-Claude Juncker, donc c'est-à-dire la précédente, puisqu'on vient de terminer la commission von der Leyen 1. Donc ça faisait 5 ans qu'il était finalisé, après 20 ans ou 22 ans de négociations. Et donc, on a besoin d'avoir en effet... la politique commerciale, d'abord, c'est une politique que les États membres ont donnée à la Commission européenne. Donc c'est une vraie politique sur laquelle la Commission a une compétence dite exclusive. Donc on ne peut pas reprocher à Mme von der Leyen de se mêler de ce qui ne la regarde pas. C'est quelque chose qu'elle peut faire. Maintenant, en effet, comme vous l'avez dit, il y a d'autres acteurs. Souvenez-vous, il y a 15 jours ou à peu près 3 semaines, il y a eu le sommet du G20. Au sommet du G20, il y avait le président chinois. Le président chinois, qu'est-ce qu'il fait ? Il est venu faire un petit tour pour essayer aussi d'avoir des accords commerciaux avec ses partenaires de BRICS plus demain. Et donc, si nous, on ne signe pas un accord avec les pays du Mercosur, comme on en a signé avec d'autres pays dans le monde, on risque de se faire rattraper ou tout du moins concurrencer par d'autres États qui vont signer des accords eux, et donc on va rendre, enfin ce qui vont rendre nos entreprises moins compétitives, puisque en effet il y aura des droits de douane qui vont baisser pour ceux qui auront un accord et d'autres pas. Et donc en effet il y a aussi l'arrivée de Donald Trump qui a dit moi tout ce qui n'est pas européen, enfin tout ce qui n'est pas américain, je mettrai les droits de douane, alors d'abord après mes partenaires mexicains et canadiens, mais tous les autres y compris peut-être. Donc si vous voulez, il faut qu'on soit dans cette compétition internationale commerciale à armes égales avec les autres parties qui nous mangeront la laine sur le dos si on ne fait rien.
Bennaouda Abdedaïm, malgré tout, il y a l'opposition ferme et répétée de la France. Les réticences de l'Italie et de la Pologne, on va parler évidemment de l'Italie. Est-ce que ce texte peut... est-ce qu'il peut y avoir une minorité de blocage de ce texte ?
Oui, tout à fait. Et les Sud-Américains en sont parfaitement conscients. Il suffit de parcourir la presse uruguayenne, paraguayenne, brésilienne, argentine de cet après-midi et de ce soir. Ils font leurs calculs et ils se disent qu'en fait, il manque un ou deux pays aux côtés de ce bloc central qu'est la France, la Pologne et l'Italie, le cas échéant. Peut-être les Pays-Bas, peut-être la Grèce, peut-être Chypre. Et cette minorité de blocage sera là. Ils en sont parfaitement conscients. Ils sont parfaitement conscients également du fait que la France en fait une question fondamentale pour, ils le ressentent de la sorte comme pour son équilibre politique et social intérieur en France, même s'ils ont du mal aussi à comprendre que ce bloc européen qui est largement excédentaire avec le Mercosur, y compris la France a un excédent commercial avec les pays du Mercosur de 1,9 milliard d'euros, c'est aussi le cas de l'Allemagne, c'est aussi le cas de l'Italie qui est excédentaire avec le Mercosur. Donc il y a l'idée que on peut faire tous les processus juridiques qui vont avoir lieu, mais que cette minorité de blocage se dessine à l'horizon, d'une part, et d'autre part, le fait que le président argentin Javier Milei, dans son discours à Montevideo, ait taillé en pièces le Mercosur en tant que bloc commercial de l'intérieur, en disant que ce Mercosur est mal ficelé. Il parle de bien pas du traité, mais de l'organisation commune de ces pays du Mercosur, qu'il a mal été négocié ce traité, que ça fait 20 ans maintenant que l'Argentine pâtit de ce marché commun sud-américain. Donc il y a de ce point de vue-là, y compris au sein du Mercosur, l'idée que s'il n'y a pas ce traité, eh bien on fera avec, notamment les Argentins.
Donc ça veut dire que là, on a négocié pendant 25 ans et qu'on pourrait potentiellement mettre ce traité à la poubelle.
Ce n'est pas écarté, encore une fois, si la France en fait à ce point une position de principe. Mais encore une fois, l'Italie, les Pays-Bas, et les Pays-Bas qui ne sont pas les moins disants en matière de libre-échange commercial. On peut se dire que ce traité sera peut-être du vieux souvenir dans quelques mois.
Alors hier, Emmanuel Macron a redit que cet accord était inacceptable en l'état. Il l'a redit cet après-midi. On a eu la réaction aussi de la ministre déléguée du Commerce extérieur, ministre démissionnaire, qui a déclaré que cet accord n'engageait que Ursula von der Leyen. À Rome, Daniele Zappalà, à Rome, la position, c'est non, sauf si. C'est une réticence, pas une opposition claire et nette.
Il y a de l'attentisme, c'est surtout les ministres de l'Agriculture qui s'est exprimé pour dire à l'état actuel, on ne peut pas effectivement accepter ces traités. Et là, il y a véritablement un alignement par rapport à la France. Mais ce qui est très intéressant, c'est la cacophonie à l'intérieur du pays. Car on a eu, même ici à Paris, le 22 novembre, cette trilatérale du MEDEF avec ses homologues, on va dire, d'Allemagne et d'Italie. Et là, il y avait en fait l'unanimité. Donc, on voit bien que l'Italie, d'un point de vue politique, elle est très fière des exportations. Et donc, en ce moment, c'est des cocoricos, car effectivement, il y a eu récemment des records au niveau de l'export. Mais ensuite, on voit, il y a une cacophonie de fond avec les entrepreneurs qui disent il faut quand même, dans un monde qui court, signer en fait ces traités et quitte ensuite à l'améliorer, à trouver en fait des ajustements. Et d'un autre côté, effectivement, une Italie qui est à la recherche, on va dire, d'alliances, d'un retour au centre du géopolitique européen, qui préfère en fait jouer l'attentisme. Mais c'est vrai que aujourd'hui, le vote de l'Italie est déterminant, car on pourrait dépasser effectivement ces seuils du 55% des pays et des 65% surtout de la population, pour effectivement avoir un blocage réel.
Et à noter que l'industrie allemande se félicite ce soir d'un coup de pouce salutaire. C'est la citation de ce soir. Est-ce que c'est un coup de force aussi d'Ursula von der Leyen, puisque il se trouve qu'elle est quand même partie à Montevideo en Uruguay, participer à ce sommet du Mercosur juste après la censure du gouvernement français, alors que Paris, on l'a répété, est très très fortement opposé à ce traité. Est-ce qu'elle a profité de cette fenêtre de tir, Pascal Johannin?
Alors, elle a profité d'une conjonction qui fait qu'elle vient d'être redésignée, que la commission qu'elle préside nouvellement est entrée en fonction dimanche dernier, que la première réunion du collège, donc de le nouvel exécutif, a été faite mercredi, et qu'il y avait ce sommet du Mercosur, enfin des leaders des pays du Mercosur, où elle s'est un peu invitée pour justement faire cet acte politique. Maintenant, moi, je vous précise deux choses. D'abord, un, il va falloir en effet que cet accord soit ratifié. C'est l'étape 1 d'un long processus. Elle pouvait le faire parce que, comme je l'ai rappelé, c'est une compétence et que ce traité était sur la table depuis longtemps et qu'il y avait aussi des gens, y compris dans son pays. Je rappelle que Madame von der Leyen est allemande, donc en effet, elle était peut-être en effet sur une ligne qui était rassemblant son pays. Ce traité doit être en effet examiné par les États membres et ratifié par les parlements. Et donc, ensuite, dans ces accords de libre-échange, il y a de toute façon des choses qu'on peut mettre de côté, suspendre des mesures dérogatoires. Donc, s'il y a des craintes, et elles sont légitimes sur un certain nombre d'aspects agricoles, pas sur tous les aspects agricoles, parce que je crois que ce qui concerne la viticulture et à d'autres secteurs, ça ne pose pas de problème.
Non, ce sont essentiellement les éleveurs.
Mais si ça pose un problème sur, en effet, de volaille et de viande bovine, à ce moment-là, dans tous les accords commerciaux, il peut y avoir des mesures où on dit cet accord s'applique sauf si ou pas sur ce sujet, tant qu'il n'y a pas, en effet, une amélioration qui est dans l'intérêt des Européens et dans l'intérêt de l'autre partie, et que ce soit un accord gagnant-gagnant. Si le compte n'y est pas, on peut dire, eh bien, on applique l'accord partiellement et pas sur une partie de l'accord qui pose un problème. Et je pense que là, c'est une solution qui pourrait être sur la table très vite pour éviter le blocage de certains pays qui viennent pas sur tout l'accord, mais sur une partie de l'accord.
Adina Reval.
Oui, je crois qu'aujourd'hui, le choix pour l'Europe, c'est être acteur du monde global ou de devenir spectateur. Et en Amérique latine, on a surtout tous vu la visite de Xi à Brasilia. On a aussi vu la visite de Javier Milei à Mar-a-Lago. Donc la question pour l'Europe, c'est est-ce qu'on reste acteur du commerce mondial? Parce que n'oublions pas, on est le premier bloc commercial au monde et le commerce a toujours fait notre puissance. Ou on devient spectateur. Donc il y a des opportunités géopolitiques et puis il y a aussi des opportunités opportunités, y compris pour le monde agricole, pas seulement pour les industries ou les services, mais pour le monde agricole. Il y a 60 appellations d'origine contrôlée, par exemple le Roquefort, qui sont protégées. Donc il y a un marché énorme qui va s'ouvrir pour l'agriculture française. Alors pour la filière effectivement bovine, par exemple, il y a des mesures très spécifiques de protection. Il n'y a pas de libéralisation, il y a juste des quotas spécifiques.
Quotas 99 000 tonnes de bœuf taxées à 7,5% contre 70 à 80% aujourd'hui.
Tout à fait. C'est un steak par an, par exemple, pour chaque citoyen européen. Et en même temps, la Commission va monitorer, va regarder l'état du marché agricole européen. Et en cas de secousse, elle peut arrêter les importations.
Ben Aouda, est-ce que l'agriculture européenne, elle est en danger avec ce traité, selon vous ?
Elle est pas davantage qu'avec un autre un traité de libre-échange, mais en tout état de cause, elle se perçoit de la sorte. Et si on sort des agriculteurs français, prenons les agriculteurs espagnols, l'Espagne qui est vraiment en pointe pour la signature de ce traité. Les betteraviers, les cultivateurs de betteraves sont vent debout en Espagne contre cet accord de libre-échange en disant non seulement on va être inondé de sucre brésilien qui ne sera pas aux mêmes normes phytosanitaires, etc., que notre sucre produit en Espagne, mais il y a un autre point qu'ils exigent, c'est une clause miroir sur les conditions de travail. En clair, que le salarié espagnol ait les mêmes conditions sociales que le salarié brésilien. C'est inconcevable pour les Brésiliens, un pays émergent et une des principales puissances économiques européennes, de mettre les conditions sociales au même niveau. Donc de ce point de vue-là, ça paraît tout à fait insoluble que cette clause miroir dans ce domaine-là, soit trouvée dans les semaines ou les mois qui viennent. Ça sera encore une fois un processus très long, quelle que soit la volonté du président Sanchez en Espagne.
À noter que le Brésil est la toute première puissance sucrière dans le monde. Tout de même.
Tout à fait. Mais après, si on prend les balances commerciales de un par un, l'Union européenne est très largement gagnante aujourd'hui avec le Mercosur. Et pourtant, vous n'entendez jamais personne au sein du Mercosur dire on a par exemple, avec l'Allemagne, on a 10 milliards, rien qu'avec l'Allemagne, 10 milliards de déficit commercial entre le Mercosur et l'Allemagne. Donc de ce point de vue-là, c'est assez marquant.
Daniele Zappala, en France, le mouvement des agriculteurs va se durcir. C'est ce qu'ont annoncé cet après-midi les mouvements syndicaux. Quelle est l'ambiance sociale en Italie sur ce thème-là ?
En Italie, le monde agricole est lui aussi, effectivement, dans une attente. Il y a eu des protestations importantes et c'est vrai que c'est un monde agricole qui est sans doute moins visible, qui a moins l'habitude effectivement de exprimer sa grogne comme en France, mais aujourd'hui il y a des échos en fait qui sont vraiment d'ampleur en Italie, même si en réalité c'est un monde agricole selon des filières qui comprend aussi les opportunités de cette ouverture. Et finalement, il y a un paradoxe qui est exprimé par certains en Italie. Dans ces rapports de force, quand il s'agit bien d'une négociation commerciale, l'Europe devrait être l'acteur fort. Or, aujourd'hui, d'un point de vue, en fait, politique, paraît finalement l'acteur désuni, l'acteur faible, alors qu'il pourrait, en fait, faire de ces opportunités d'accord avec l'Amérique latine, peut-être un atout pour aussi rehausser les niveaux effectivement de contrôle pour au niveau international et donc pour imposer en fait le multilatéralisme sur ces questions pour contrecarrer, c'est vrai, cette industrialisation forcenée de l'agriculture. Donc là, c'est vrai qu'en Italie, il y a un discours pragmatique, il y a des filières qui pourraient effectivement profiter, donc il y a sans doute une approche un peu moins idéologique, on va dire.
BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Stéphanie Collo, Good Evening Business, les experts sans frontières.
18h36 sur BFM Business, les experts du soir. On est de retour jusqu'à 19h sans pub avec Daniele Zappala, correspondant d'Avenir à Paris, docteur en géopolitique, Adina Revol, auteur de Rompre avec la Russie, professeur à Sciences Po et ancienne porte-parole de la Commission européenne en France, Pascal Johannin, politologue à la Fondation Robert Schuman, et Ben Aouda Abdedaïm, éditorialiste international, auteur de la newsletter L'Envers du Globe. On parlait à l'instant du traité de libre-échange entre le Mercosur et l'Union européenne, de quelque part le boulevard qui a été laissé, ou qu'en tout cas Ursula von der Leyen a pris en Europe, Daniele Zappalà, pour imposer en quelque sorte sa vision des choses sur ce traité du Mercosur, mais plus largement, on la voit depuis sa réélection, largement s'imposer en Europe.
Oui, c'est un peu les sentiments qu'on peut effectivement avoir au début de ces mandats. Et cette Europe qui essayait depuis un certain temps de retrouver en fait une entente, l'axe par exemple franco-italien qui avait été énormément affaibli, était justement en train de un peu se recomposer. Et figurez-vous qu'hier, les jours même des démissions en fait formelles de Michel Barnier, il devait être à Rome. Absolument. Pour renforcer les traités du Quirinal, pour relancé, il avait dit, j'ai beaucoup de respect pour l'Italie, il n'avait pas tari d'éloge, car effectivement, la France avait envie de renouer avec un allié naturel, malgré en fait les différences politiques. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a effectivement deux acteurs, la France et l'Allemagne, qui sont très affaiblis, et Madame von der Leyen en profite, elle veut peut-être aussi tester quelles sont ses marges de manœuvre. Donc elle aussi, elle est dans une forme un peu de négociation par rapport aux grandes capitales européennes. Et l'Italie, elle, on le sait en fait avec Giorgia Meloni, qui a essayé ces derniers temps aussi d'avoir un dialogue très approfondi avec Ursula von der Leyen, se retrouve dans un entre-deux, avec, dans ses besoins de ce triangle avec l'Allemagne et la France, et en même temps dans cette relation très personnelle qui est le symbole aussi de ces envie de l'Italie de rentrer à nouveau au cœur du jeu européen.
Benaoud Abdedaïm, on a une France fragilisée, une Allemagne en transition, les législatives en février, une croissance à la peine, c'est moins qu'on puisse dire. On a l'ombre de Poutine qui pèse sur l'Europe de l'Est. Est-ce que ça donne une Union européenne paralysée jusqu'à quoi, l'été prochain ?
Non, jusqu'à ce que le futur chancelier allemand, selon toute probabilité, le conservateur Friedrich Merz arrive à la chancellerie à Berlin. C'est le calcul de nombreux diplomates, ce n'est pas un secret d'État, à Bruxelles et ailleurs. Lorsque Friedrich Merz s'installera à la chancellerie, si tout va bien pour lui, bien entendu, à ce moment-là, il y aura de nouveau un capitaine pour le navire, et qu'on pourra repartir sur des éléments politiques solides concernant l'Union européenne. Quant à la France, strictement personne n'est en mesure de dire ce qu'elle sera dans une semaine. Alors c'est vous dire, c'est dans 6 mois ce que ce sera. Et de ce point de vue-là, ça se fera effectivement entre une présidente de la Commission européenne qui, il faut le rappeler dans son discours, lors de son premier discours en tant que nouvelle présidente de la Commission européenne, a placé en tête, et vraiment en tête de ses priorités, l'industrie automobile. Pour ainsi dire, la première industrie allemande. Et elle a dit que ça serait sa priorité personnelle. Elle n'a pas parlé d'autres secteurs. Donc c'est dire si ça sera vraisemblablement un tandem entre Bruxelles et Berlin, sachant qu'il y a une troisième personnalité particulièrement intéressante qu'il faudra suivre, c'est le président du Conseil européen, le social-démocrate Antonio Costa, portugais, qui viendra certainement perturber la feuille de route de la présidente de la Commission européenne. C'est une personnalité politique de très grand poids, très grande expérience, donc ça sera intéressant de voir comment lui mettra sa patte dans cette Europe de 2025.
Adina Revol.
Oui, on dit l'Europe effectivement en décrochage, c'est Mario Draghi qui l'a dit, mais aujourd'hui on a vu à Montevideo que l'Europe attire toujours en fait, puisqu'avec cet accord politique sous le Mercosur et malgré les visites de Xi à Brasilia, l'Europe est là, et donc c'est ça qui est important. Et par rapport à Madame von der Leyen, je crois qu'elle est très mal connue en France et parfois très caricaturée, puisque c'est une femme qui a fait beaucoup déjà pour l'Union européenne. Si on a les vaccins, si on a le plan de relance, elle a su tenir l'unité européenne face à suite à la guerre en Ukraine. Donc le premier mandat, ça a déjà été un mandat très fort, pourtant très méconnu et souvent très caricaturé. Mais elle a déjà, c'est une femme qui a beaucoup de volonté pour l'Union européenne.
Si je peux me permettre, si vous regardez la presse allemande, la presse française à côté est vraiment gentille vis-à-vis d'Ursula von der Leyen. Donc, parenthèse.
Alors, justement, on va revenir sur la situation politique en France. On a eu la presse européenne, notamment The Economist, qui a affiché un merde, je cite, hein, en couverture avec en sous-titre « La France entre dans l'inconnu ». En Espagne, le quotidien catalan La Buenguardia parle d'un dangereux saut dans le vide. Der Spiegel écrit que le principal partenaire de l'Allemagne au sein de l'Union s'enfonce dans une double crise politico-financière. Pascal Johannin, est-ce qu'on est devenu la risée de l'Europe ?
on n'est pas devenu la risée de l'Europe, on est devenu une source d'inquiétude pour les autres pays européens, parce qu'il y avait une certaine stabilité française, nous avons un soutien très majoritaire, et qu'il y avait donc une certaine stabilité, avec une continuité, nous sommes un pays fondateur, et depuis, malgré les alternances, la France avait été toujours aux avant-postes de l'Europe. Là, bien évidemment, compte tenu du fait que nos amis partenaires voient bien qu'il n'y a plus de majorité, et que Michel Barnier, qui était très connu à Bruxelles, parce qu'il a été vice-président de la Commission deux fois et négociateur en chef du Brexit, et qui avait réussi à négocier avec la Commission, dans le laps de temps qui était le sien, l'accord pour justement réduire le déficit et que ça soit accepté par la Commission, ce qui a été fait il y a 15 jours. Donc, il était connu, on se disait, c'est un choix, un sage, il va mettre un peu d'ordre, etc.
Et donc, on se dit, si même lui a échoué, ça va être très, très compliqué.
Alors, on voit surtout que certains partis politiques qui sont dans la majorité européenne à Bruxelles, le Parti Socialiste, pour ne pas le citer, votent contre, complètement à Paris, de ce qu'il fait à Bruxelles. C'est-à-dire à Bruxelles, ils votent avec le PPE et Renew, et là, ils votent avec l'extrême droite et l'extrême gauche. Donc il y a quand même une dichotomie, et pour ce parti, quelque chose quand même qui doit être du claquage de muscles, qui est déchirant, puisque à Paris, ils font le contraire de ce qu'ils font à Bruxelles. Et donc, à Bruxelles, ça a été vraiment le grand choc. Parce que, en effet, ils se sont dit, mais on les connaît, ils sont dans la majorité qui soutient von der Leyen, et dans la majorité qui est possible pour obtenir, en effet, ce compromis au niveau européen. Et à Paris, ils votent avec les extrêmes. Et ça, je crois que ça sera leur reproché. Il va falloir qu'ils fassent un gros travail. Parce qu'en effet, ils ont mis le droit dans un engrenage qui fait sauter un gouvernement qui, où on voit pas aujourd'hui, surtout, quelle est la contre-proposition qu'il peut avoir sur la table, compte tenu de la situation du vote des Français il y a 6 mois.
Daniele Zappalà, quand on pense instabilité politique, malheureusement, on pense à la Belgique, mais aussi à l'Italie. Comment vous regardez cette situation française?
C'est un peu le monde à l'envers, dans la mesure où on avait toujours vu les systèmes français comme les synonymes même de la stabilité, un système conçu véritablement pour garantir des majorités du gouvernement solide. Et donc, figurez-vous qu'en Italie, depuis des années et des années, il y en a qui invoquent un passage sur un modèle un peu à la française. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un vide véritable, surtout en termes de, je dirais, en fait, de force des propositions. On peut en fait critiquer, en Italie, on les critique beaucoup, Macron, on dit, en fait, il a eu une attitude trop, en fait, narcissique au niveau de ses relations avec les autres pays européens, mais les discours à la Sorbonne du septembre 2017 avaient été quand même une tentative à un moment où il fallait que quelqu'un en fait donne de la voix. Ensuite, on laissait. Il y a eu bien sûr plein d'oppositions. Mais aujourd'hui, je pense, même les Italiens qui n'aiment pas trop les styles politiques de Macron reconnaissent qu'il y a malheureusement une Europe sans pilote et que effectivement on est obligé d'attendre sans doute l'Allemagne, mais l'Allemagne à elle seule, à un moment en fait de forte crise économique, ne pourra pas quand même changer.
Et oui.
Sans que, effectivement, au moins, l'entente de 2 ou 3 grands pays, en fait, puisse relancer les processus, notamment sur les questions de l'énergie et de la défense, qui aujourd'hui s'avèrent vraiment les grands points faibles de l'Union européenne.
Et au moment où le moteur allemand, Benahouda, le moteur franco-allemand est à l'arrêt, on a Donald Trump qui est de retour à la Maison-Blanche dans quelques semaines, qui veut instaurer des nouveaux droits de douane. Les conséquences directes, c'est quoi? C'est la Chine, c'est Pékin qui va nous inonder de produits chinois.
Oui, c'est le discours que l'on entend comme si tout était déjà écrit. Pour l'instant, on n'a aucune réalité en fait dans l'approche de l'Union européenne, hormis une personnalité qui s'est prononcée. Alors là, vous parliez de prérogatives, on peut se poser la question. C'est la présidente de la Banque Centrale Européenne qui a dit qu'il fallait faire affaire avec Donald
Trump. Négocier.
Il fallait négocier. Ce qui est quand même... On ne cesse de dire au gouvernement pas de s'occuper de politique monétaire. Maintenant, ce sont ceux qui sont chargés de la politique monétaire qui s'occupent de la politique budgétaire et tout simplement économique. De ce point de vue-là, il faut attendre qu'il y ait une voie commune. Et pour l'instant, il n'y en a pas. Il ne peut pas y en avoir. Olaf Scholz est obnubilé par sa campagne. L'idée, c'est de finir le moins écrasé par le vote populaire que possible. En France,
Un gouvernement, il y en aura peut-être un dans une semaine, dans un mois, dans trois mois, nul ne le sait. Donc de ce point de vue-là, vous ne pouvez pas avoir de voix commune face à la Chine et aux États-Unis, même si, il faut le reconnaître, le fait que le premier voyage, avant même qu'il ait été élu, enfin qu'il ait été investi à l'étranger de Donald Trump, ça soit pour la France, ça montre que Paris compte encore sur la carte mondiale.
La transition est toute trouvée. Merci Ben Ahouda. Plus de 5 ans après l'incendie qui a ravagé la cathédrale, c'est donc la grande réouverture au public pour Notre-Dame de Paris. Demain, une quarantaine de chefs d'État assistera à l'événement sur place, dont, évidemment, donc on vient de le dire, Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Ursula von der Leyen a annulé sa venue, pour info. La planète entière aura les yeux rivés sur la cérémonie demain. Au moment où, on le disait, la France traverse un moment de blues politique et économique, est-ce que cet événement, ça peut devenir un levier d'attractivité pour la France, un outil de soft power, Adina Revol?
C'est un symbole de la culture européenne. Donc justement, c'est au-delà de la France, c'est l'Europe qui rayonne à travers Notre-Dame. Et d'ailleurs, il y a eu la participation aussi européenne dans la rénovation de restauration de Notre-Dame. Et on voit bien que l'Europe, en fait, arrive à se construire dans les crises. Et je pense que Notre-Dame est vraiment un symbole. Il y a 5 ans, elle était complètement détruite. Et là, elle rayonne à nouveau. Ben, c'est peut-être une métaphore, mais l'Union européenne a aussi eu des crises existentielles. Récemment, on a eu la pandémie, on a eu la crise énergétique que vous avez mentionné d'ailleurs et qui n'est pas finie. Et d'ailleurs, c'est un des moteurs de crise qu'on connaît aujourd'hui toujours en Europe, y compris en Europe centrale. Et donc, on voit bien que l'Union européenne peut renaître et c'est peut-être le symbole même. À ce qu'on voit demain à Paris avec cette réunion de grands leaders mondiaux montre que l'Union européenne attire toujours, que Paris est toujours une capitale qui attire.
C'est un atout diplomatique, Pascal Johannin, cette réouverture de la cathédrale. Est-ce qu'on peut s'en servir pour vanter le génie français, par exemple ?
Alors, le génie français, il est dans les artisans qui l'ont reconstruit en 5 ans avec un talent extraordinaire. Non, d'abord, il faut rappeler que c'est une église. Et donc, c'est un symbole religieux et donc d'une réouverture d'une église qui avait fermé par incendie et qui rassemble donc au-delà de l'Europe tous ceux qui croient dans la religion catholique. Il se trouve que puisque c'est une réouverture, ce qui est assez rare dans l'histoire, il y a en effet un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement qui seront là autour du président de la République, et que donc en effet demain, Paris sera au cœur de l'actualité internationale et pas qu'européenne, et que donc Paris, État membre de l'Union européenne, sans von der Leyen ou avec, on s'en fiche, aura une notoriété internationale et que donc l'Europe existe par la voie de la France. Et
juste, ça fait quand même deux fois en un an, enfin sur l'année 2024 avec les Jeux Olympiques.
Exactement. Le premier, c'est les Jeux Olympiques. Et on a oublié tout à l'heure de dire qu'en effet, peut-être il y a une crise politique en France, mais le président de la République est là et c'est lui qui siège au Conseil européen. Donc il n'y a pas de politique chaise vide au Conseil européen. Il se réunit dans 10 jours, il y aura le président français, il y aura Olaf Scholz très affaibli, mais le président français, il sera là et la voix de la France comptera au Parlement, au Conseil européen dans 15 jours.
Daniele Zappalà, il y aura aussi une possible rencontre demain entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky en marge de la réouverture de Notre-Dame. Emmanuel Macron va les recevoir aussi demain matin à l'Élysée. Ça veut dire qu'on est le centre, on sait aussi là où ça se négocie.
Oui, et c'est une grande opportunité évidemment pour la France. C'est aussi un risque dans la mesure où aujourd'hui, effectivement, les rapports des forces sont tellement déséquilibrés entre ces Donald Trump en fait triomphant et effectivement l'Europe affaiblie qu'il pourrait arriver un peu plus qu'un grand seigneur, je dirais presque un empereur, un peu style, dans un style presque médiéval pour montrer toute sa puissance par rapport à une Europe qui malheureusement politiquement est affaiblie. Mais c'est sûr, c'est je crois d'un point de vue diplomatique tous les symboles du soft power au sens de l'héritage qui s'avère une véritable rente pour l'Europe, pour les grands pays comme la France et l'Italie. Et bien évidemment, à chaque fois, il faut essayer d'exploiter au maximum cette opportunité. On l'a vu avec les JO qui ont été un succès incroyable. personne ne s'attendait en fait à ce succès. Malheureusement, cette année qui pouvait être pour la France, à cet égard, une année extraordinaire. Il y avait eu déjà, au mois de juin, les 80 ans du débarquement. Donc une année véritablement luxueuse au niveau des événements internationaux. Et voilà, ça s'achève sur ces notes politiques, bien évidemment pas du tout faste, mais c'est sûr que c'est une leçon, c'est cette renaissance de Notre-Dame, dans la mesure où, certes, il y a la diplomatie, mais il y a aussi tous ces legs énormes qu'on peut exploiter dans des domaines comme économiques, comme le tourisme. Par exemple, la France a dépassé quand même les 100 millions de visiteurs. C'est un record historique. D'autres domaines comme le style de vie. Et voilà, là encore, des pays comme la France et l'Italie sont les héritiers d'une culture millénaire qui aujourd'hui a aussi des retombées énormes au niveau commercial. On parlait en fait du Brésil, et bien les produits de luxe italiens, français se vendent en fait comme des petits pains au Brésil, on le sait. On sait qu'il y a véritablement un engouement, et donc il faut transformer l'essai à la fois au niveau commercial et aussi au niveau de l'habileté, en fait, je dirais, diplomatique.
Ben Aouda.
Il faut quand même rappeler que sans les donations américaines, il n'y aurait pas de reconstruction de Notre-Dame. Donc c'est pour ça qu'il arrive aussi sûr de son coût, parce que pratiquement une soixantaine de millions de dollars sont apportés par des contribuables, enfin des fidèles, pardon, américains. Donc de ce point de vue-là, ils sentent aussi que c'est un peu de leur Notre-Dame à eux. Parce qu'effectivement, c'est d'abord une église. Premier point. Deuxième point, effectivement, il y a l'idée d'assumer, mais ce qui n'est pas fait par la France, un statut de superpuissance culturelle que lui a accordé le Wall Street Journal, qui est généralement peu amène pour la France, qui expliquait fin juillet dans un éditorial que cette France superpuissance culturelle a su démontrer sa capacité à éblouir le monde avec panache, et ça sera encore une fois l'occasion de le faire. Mais ce sont des événements ponctuels dont effectivement on a du mal à suivre le fil conducteur, et de ce point de vue-là, il y a peut-être aussi l'idée de bâtir tout un récit autour de cette superpuissance culturelle auquel les Français semblent se refuser en ayant d'autres soucis que ceux de cette grande culture française millénaire.
Moi, je pense très rapidement, demain, Pascal Joannin.
Moi, je pense que demain matin, c'est une opération tout à fait bénéfique pour Emmanuel Macron, qui est dans une mauvaise passe politique intérieure, politique politicienne.
Heureusement qu'il peut rayonner sur la scène.
Il a en effet demain l'opportunité d'avoir en effet toutes les caméras qui vont être braquées, montrant qu'en effet, il réunit tous les chefs d'État et de gouvernement, et donnant peut-être aussi, alors vous parliez de fierté, un motif de fierté à beaucoup de Français et à beaucoup d'Européens, pour dire voilà, il y a eu une catastrophe, on a réussi à le faire internationalement avec tous les mécènes et les dons, etc. Mais voilà, aujourd'hui, on est là, on est tous ensemble, et il va bien entendu essayer de montrer que c'est une opération qui va lui rapporter, et il va être au centre de toute l'attention de demain. Et donc, la France a un chef qui va être un peu le chef du monde demain pendant la réouverture de Notre-Dame. Ouais.
Merci beaucoup à tous les quatre. Daniel Lesapala, correspondant d'Avenir à Paris, docteur en géopolitique. Adina Revol, auteur de Rompre avec la Russie, professeur à Sciences Po et ancienne porte-parole de la Commission européenne en France. Pascal Joannin, politologue à la Fondation Robert Schuman. Et Ben Aouda Abdedaïm, éditorialiste international, auteur de la newsletter L'Envers du Globe, à laquelle vous pouvez, je vous le rappelle, vous abonner gratuitement. 18h, presque 56 sur BFM Business, tout de suite, le journal.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.